Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, quelle est cette tranquillité dénoncée par le prophète Amos dans la première lecture? Il évoque le désastre d'Israël. Or, il ne s'agit pas de la déportation qui aura lieu 2 siècles plus tard. Une bonne partie de la vie à Jérusalem se déroule plutôt bien, même si les royaumes sont divisés. Mais le prophète Amos parle d'un malheur. Et ce désastre dont il parle, c'est, dit-il, cette façon de se vautrer, de se prélasser, de rester à Sion sans se poser de questions, de rester assis sur son héritage spirituel, alors qu'on est le peuple élu, doté de la parole de Dieu, des prophéties, de la loi. Nous sommes riches de Dieu, fait entendre Amos, et nous n'avons plus de devoir envers lui, ni devant les autres. Cette question, voyez, que pose Amos, je pense qu'elle est précieuse pour éclairer l'interprétation de la parabole. Car Jésus nous livre ici une parabole, et une parabole, c'est doté d'un sens symbolique, d'un sens spirituel qu'il faut saisir, en évitant de l'interpréter trop proche du sens littéral, en essayant de tirer une petite morale, comme s'il s'agissait d'une histoire vraie. Nous sommes sur une composition symbolique. Parce que le sens moral, facile à extraire immédiatement, c'est qu'il faut prendre soin de ce que nous ignorons. Ce pauvre nommé Lazare, qui est à moitié mort à l'entrée d'une maison, eh bien, nous devons avoir conscience de sa pauvreté, de ses besoins et prendre soin de lui. L'ignorer est une grave injustice qui offense Dieu. Cela est vrai, bien sûr. Mais nous n'oublions pas ici que nous sommes dans un récit symbolique. Essayons de comprendre de quelle richesse, également de quelle pauvreté, il s'agit ici. L'homme riche, qui est anonyme, que sait-on de lui ? Qu'il a une grande maison, bien gardée, bien délimitée, avec un portail, qu'il est vêtu de lin fin, qu'il a donc une belle tunique, et qu'il consomme de bons repas, des festins somptueux. Vous voyez, ces trois éléments, si vous les mettez bout à bout, que vous les relisez dans l'ensemble de l'interprétation biblique, vous retrouvez des symboles très positifs de la vie chrétienne, du fait d'être fils de Dieu. D'abord, avoir hérité, d'avoir un lieu en héritage, bien gardé par Dieu. C'est tout le sens de l'Église, le nouvel Israël. Et le Seigneur nous demande d'en prendre soin et de bien le garder. Être doté, être revêtu d'une belle tunique, c'est d'abord très positif, c'est le signe de la restauration de notre dignité filiale d'enfant de Dieu. Souvenez-vous, il y a quelque temps, la parabole du fils prodigue, après sa réconciliation et sans doute une bonne douche, le Père lui enfile une belle tunique, signe de sa dignité. Quant au banquet, évidemment, il est une préfiguration du bonheur éternel, et d'abord pour nous, du banquet eucharistique où Dieu donne tout, plus encore se donne totalement. En contraste, le pauvre, ces trois éléments, il en est complètement dépouillé. D'abord, il n'a plus de patrie, il est apatride, il est perdu, il est dans la rue. Il n'a plus rien en héritage. Non seulement il n'a pas de tunique, mais les chiens dévore ses chairs, il est donc dépouillé au plus haut point, il ne se nourrit de rien, il est plutôt en pâture, il est affamé. Peut-être que ici le Seigneur, à travers cette parabole, symbolise donc la richesse spirituelle du peuple d'Israël, d'autant qu'il s'adresse aux pharisiens, qui sont bien placés pour le savoir, ils en ont profondément conscience, mais ils n'ont peut-être pas conscience suffisamment du devoir de partager ces trésors qui nous ont été octroyés par le Seigneur. Cela nous renvoie à notre vocation profonde de peuple élu, nous l'Église du Seigneur, le nouvel Israël. Certes, nous savons bien, et nous voulons le faire, en premier lieu, il s'agit de prendre soin des pauvres, de servir notre prochain et de combattre, bien entendu, la faim, l'isolement, l'ignorance, mais cela, jamais en perdant de vue l'enjeu de la vie éternelle. Ce que procure la parole de Dieu, la grâce que nous offrent les sacrements, cela, l'Église doit le servir en premier lieu. Je prends un exemple qui nous concerne dans notre communauté. Il y a quelques années, nous avons décidé de fonder un patronage, un centre de loisirs. Était-ce simplement pour en ajouter un de plus, alors que maintenant les mairies ont imité les paroisses d'antan et s'occupent de la jeunesse française, et qu'il y a aussi des centres privés? Fallait-il en ajouter un de plus? D'abord, nous croyons que nous voulons collaborer au service qui est rendu par tous ces centres, mais plus profondément, ce que nous visons pour tous ces enfants que nous voulons accueillir, c'est la révélation du Dieu vivant, c'est leur salut éternel. Toi, homme de Dieu, écrit Paul à Timothée, bien sûr, recherche la justice et la charité, mais mène le bon combat, écrit-il, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. Vous voyez la belle expression, empare-toi de la vie éternelle. C'est à cela que tu es appelé, t'emparer de la vie éternelle, non seulement pour toi, ton propre salut, mais pour celui des autres, qui doit t'inquiéter. Si tu as ton cœur dilaté, vraiment ouvert aux autres, cela t'intéresse. La conscience de cette vocation, et Jésus le rappelle clairement dans cette parabole, elle est déjà connue normalement, elle est vite oubliée, mais elle a déjà été révélée. Moïse et les prophètes ont fait savoir que la vocation d'Israël était particulière, mais destinée à tous. Et c'est cela que Jésus souligne ici. Vous le savez déjà, au fond, réfléchissez. Et ma résurrection, semble dire Jésus, ma résurrection d'entre les morts ne changera rien si vos cœurs sont fermés. Elle révélera la fermeture des cœurs. Mais elle n'ouvrira pas de force les cœurs. C'est comme si la clé pour ouvrir la porte était à l'intérieur. On peut appeler les pompiers pour qu'ils viennent la forcer de l'extérieur, appeler Dieu pour qu'il vienne briser notre cœur de l'extérieur, mais ce n'est pas ce que fait le Seigneur. Il nous dit, la clé est à l'intérieur de toi, je l'ai déjà déposée. Et les fils d'Israël, par les prophéties, par les paroles de Dieu, dont ils sont devenus dépositaires, ont de quoi comprendre le plan de Dieu, son dessein de salut pour tous les hommes, et le rôle que doivent jouer les fils de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, si Jésus nous dit cela, soyons clairs, s'il nous le reproche à travers cet enseignement pharisien, c'est qu'il nous aime. Et que rien ne le désespérerait davantage que de nous voir, ou désolerait en tout cas davantage que de nous voir privés de joie pour l'éternité. Ici, dans cette parabole, de façon symbolique, mais quand je dis de façon symbolique, ça révèle des vérités qui sont vraiment à saisir. Il nous est parlé de l'enfer. Vous avez remarqué comme c'est clair, sans ambages. On parle rarement de l'enfer dans les prédications. À la messe le dimanche, vous entendez rarement parler de l'enfer. Parce qu'on nous a dit qu'on en avait trop parlé autrefois. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez. En tout cas, si on en parlait autant que Jésus nous en parle, on en parlerait plus souvent peut-être. Retenons quelques éléments symboliques qui nous permettent de concevoir ce que c'est que la damnation éternelle. C'est Jésus qui nous enseigne. Il décrit d'abord une fournaise avec une souffrance terrible. Un grand abîme qui empêche toute communication, quelque chose donc de définitif, d'irréversible, qui rendrait impossible tout changement pour les autres et pour nous-mêmes. Et nous notons plus subtilement qu'il n'y a pas que les très 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 méchants en enfer, idée qui nous arrange bien. Je ne suis pas méchant au fond, donc ça ne me concerne pas. Ce riche, vous avez remarqué que, bon, d'abord il demande pour lui un petit coup à boire, mais après il demande, il intercède pour les siens. Il n'est pas si méchant le bougre. Il a encore une once de compassion. Cela signifie que l'enfer, il y a peut-être des gens qui ne sont pas si affreux que cela. Nous empressons d'imaginer que c'est un endroit extrêmement spécial pour des êtres absolument abominables, pour Adolf Hitler, Pol Pot, monsieur et madame Dutroux, voilà. C'est un peu facile. Ici, l'enfer, eh bien, il a accueilli cet homme qui demande de l'aide pour lui-même et pour les autres. Et pourtant, il est en enfer. Est-ce que Jésus ne parlerait pour rien dire ? Dieu nous parlerait de la damnation éternelle ? Et elle ne serait pas une possibilité réelle pour chacun d'entre nous s'il n'y avait pas un risque. Jésus aurait-il donné sa vie, toute sa vie sur la croix pour nous sauver s'il n'y avait pas un risque réel ? Et voyez, de même que certaines personnes nous révèlent cette parabole, vivent ici-bas, pendant leur vie, un enfer. Les gens qui passent toute leur vie sur un lit d'hôpital, dans une pauvreté extrême, dans l'isolement, etc. Pour certaines personnes ici-bas, la vie est un enfer. Ces personnes-là, elles peuvent espérer être délivrées un jour, au-delà de la mort, de leur souffrance. Ils savent que leur souffrance n'est pas éternelle. Elle est longue et pénible. Peut-être qu'elle va recouvrir et s'identifier avec toute leur vie. Mais ils peuvent être bien légitimement dans l'espérance et l'attente de la mort comme une délivrance. L'enfer de la terre, les enfers de la terre, laissent place à l'espérance du jugement. L'enfer du ciel ne laisse place à aucune espérance. Aucune attente, aucune délivrance, il est le désespoir même. Frères et sœurs, on peut toujours botter en touche. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, éviter ce qu'elle nous dit vraiment, faire comme si on n'avait pas entendu, comme si on n'avait pas été prévenu, comme si nous n'avions ni Moïse, ni les prophètes, ni le Messie, Fils de Dieu, lui-même qui s'est donné la peine de venir nous sauver du pire. On peut réduire cette petite parabole à une jolie morale sur l'amour du prochain et l'attention aux pauvres, comme si l'Église n'était qu'une ONG de plus. Entendons, dans la foi, l'appel plus profond à prendre soin des plus pauvres, non seulement en cette vie, mais en vue de l'autre. Allons jusqu'au bout de l'amour, de la logique de l'amour de Dieu, qui veut que nous aimions notre prochain en vue de son éternité et pour l'éternité. Essayons de répondre à notre vocation de peuple élu, qui nous donne en fait plus de devoirs que de droits. Alors la question qui ouvre cette année, c'est celle qui conclut l'extrait de la prophétie d'Amos en première lecture. Allons-nous nous vautrer cette année ? Vous pouvez aller voir, c'est dans la parole de Dieu, première lecture. Allons-nous rester vautrés ainsi ? Le Seigneur nous provoque comme un Père qui nous aime, qui veut nous éveiller, nous réveiller, qui nous dit « dégage du canapé », de la torpeur mortifère, des nantis que nous sommes. Et le Seigneur nous dit « allez, vas-y, réveille-toi, empare-toi de la vie éternelle, dès maintenant et pour l'éternité ». Alors annonçons-la joyeusement par toute notre vie, cette éternité d'amour, travaillons à la rendre accessible à tous ceux qui, souvent sans le savoir, ont faim et soif, ouvrons la maison de Dieu, offrons à tout homme de revêtir la tunique baptismale, invitons au banquet du salut. Tout cela nous est offert, nous le croyons, pour être partagé. Reconnaissons-le et faisons-le. Amen.